Et vous êtes à l'écoute de votre station par excellence, Fidèle au poste. Et voici maintenant votre émission Voyage-Voyage avec votre animateur André Bouchard. Bienvenue, chers auditrices et auditeurs de votre station par excellence, fidèleauposte.com. Ici André Bouchard, animateur de votre nouvelle émission Voyage-Voyage. En effet, celle-ci vous transportera en musique, entrevue un peu partout à travers le monde, ouverte, décontractée, informative et divertissante. J'espère que vous faire découvrir, en effet, avec des spécialistes du monde touristique, les récents événements culturels, artistiques, gastronomiques et même sportifs à l'occasion. En somme, tout ce qui touche au monde du voyage. Donc, sans plus tarder, voici les sujets qui nous a fait plaisir de sélectionner pour aujourd'hui, en espérant que vous saurez les apprécier. D'abord, la 86e saison de la pêche aux petits poissons des chenaux de Saint-Anne-de-la-Pérade avec Steve Mascotte. Puis, quelques nouveautés des Guides d'Ulysse avec Julie Brodeur, également le 5e festival de la banquise de Portneuf avec Alexis Nantel, ensuite le Guide des pourvoiries du Québec avec Josiane Navalé, qui nous parlera également d'un fonds spécial écologique à l'occasion pour les pourvoiries. Et nous compléterons avec une belle visite au musée Pierre Boucher en compagnie d'André Brousseau qui fêtait récemment son 140e anniversaire. Là-dessus, bien ici, André Bouchard qui vous souhaite bonne écoute, chers auditrices et auditeurs, sur les ondes de votre station par excellence fidèleauposte.com pour votre émission Voyage, Voyage. Maintenant du côté de Saint-Anne-de-la-Pérade, en compagnie de Steve Mascotte, qui est le porte-parole de la 86e saison de la pêche aux petits poissons des chenaux, et que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour, M. Mascotte.
Bonjour.
M. Mascotte, est-ce que tout va pour le mieux maintenant, la pêche aux petits poissons des chenaux?
Oui, nous, depuis le 15 janvier, là, déjà, les chalets là, sont tous installés, et ça fonctionne à plein chez nous. Écoutez, on a près de 340 chalets d'installés. La glace a au-dessus de 22 pouces d'épaisseur, donc pour nous, là, c'est vraiment cette 86e édition-là est lancée. Et il y a beaucoup de monde là, qui vient nous voir, donc c'est vraiment agréable et on est vraiment fiers d'être là cette année.
D'ailleurs, c'est un événement international pratiquement, si l'on peut dire.
Oui, la pêche aux petits poissons des chenaux, écoutez, là, c'est un événement où est-ce que des touristes d'un peu partout à travers le monde là, viennent taquiner le petit poulamont. Mais c'est sûr que notre clientèle principale, là, on se le cachera pas, c'est les gens du Québec, les gens de Montréal, de Trois-Rivières, Sherbrooke, des grandes villes, et les gens locaux aussi. Donc, vraiment, les gens, c'est une tradition pour eux là, de venir chez nous à Saint-Anne-de-la-Pérade.
Vous en avez de l'Ontario également?
Oui, exactement. On a une clientèle asiatique aussi là, qui vient de l'Ontario, de Toronto. On a des Russes aussi. Donc, on a des gens vraiment d'un peu partout là, qui viennent chez nous. C'est vraiment un rendez-vous là, quasiment annuel là, pour ces gens-là.
Et pour nos auditeurs ou internautes qui sont moins habitués, là, comment ça se déroule, cette pêche aux petits poissons?
Écoutez, la pêche aux petits poissons des chenaux, c'est des chalets de pêche là, qui sont installés là, sur la rivière qui peuvent contenir entre 4 à 30 personnes. Le trou est à l'intérieur du chalet de pêche, donc les gens pêchent vraiment d'une façon confortable. C'est chauffé au bois, il y a l'électricité, donc les gens peuvent amener des fois une petite bouilloire là, pour boire. Sinon, écoute, vraiment, c'est le poids est fourni, les lignes sont là, donc c'est vraiment là, très, très, très confortable. Il y a des divans, tables, chaises aussi à l'intérieur des chalets.
Est-ce que c'est en tout temps, durant la nuit, dans la journée?
Oui, la période de pêche, dans le fond, c'est de 8 heures le matin à 6 heures le soir ou de 8 heures le soir à 6 heures le lendemain matin. Donc, c'est 24 heures sur 24 là, qu'on peut venir pêcher les petits poissons des chenaux. Et les week-ends, ben, c'est important là, de réserver votre chalet de pêche là, sur lespoissons.ca. Parce que la saison est quand même assez courte. Là, ça va se terminer le 18 de février.
Et quand on parle de ce petit poisson, là, pour nos auditeurs, là, c'est quoi là, ce petit poisson, ce petit poulamont?
Ben écoutez, le poisson des genoux, il rentre là, par centaines de millions dans la rivière Sainte-Anne et c'est une petite morue. Là. C'est un beau petit poisson blanc. On fournit là, des livres, là, des petits pamphlets, comment l'arranger. On fournit des livres de recettes aussi là, pour que vous puissiez bien le cuisiner à la maison. Donc, c'est vraiment un bon petit poisson là, à manger.
Comment, une petite recette rapide, qu'est-ce que vous diriez, Steve?
Ben écoute, la meilleure façon, c'est la vieille méthode ancestrale qui est, dans le fond, d'arranger le petit poisson. Après ça, vous le roulez dans la farine et les œufs, puis vous le faites frire dans la poêle, dans l'huile. Ça vient un petit bâtonnet croustillant, là, et c'est vraiment bon, là. Les gens, étant donné la grosseur qui varie à peu près entre 6 et 12 pouces, souvent les gens, là, une bonne portion, là, ça va peut-être être 8 à 10 petits poissons des chenaux que les gens vont manger.
Et à part la pêche, est-ce que d'autres activités également?
Ben oui, c'est sûr que sur la rivière Sainte-Anne, pendant le festival, il y a plein d'activités. Donc, en plus, en fin de semaine du 3 et 4 février, là, c'est le début de notre festival. Donc, il va y avoir là, un tour de poney sur la rivière, il va y avoir le tramway, les patinoires, les jeux gonflables. Donc, vraiment, jusqu'au 18 février, là, ça va être vraiment un endroit à venir nous visiter ici à Sainte-Anne.
Vous aviez une invitation à faire à nos internautes, internautes auditeurs pour les convaincre à visiter justement votre beau coin. Qu'est-ce que vous diriez?
Ben écoutez, c'est magnifique à voir. C'est vraiment un village dans un village. C'est des petits chalets là, que les petites cheminées fument, autant jour et nuit. Et vraiment, c'est une pêche où est-ce que les enfants viennent prendre souvent leur premier poisson. Juste de voir leur sourire, là, de voir là, de techniquer le petit poisson des genoux. Écoutez, c'est un poisson là, qui a pas de dents, qui a pas d'épines sur le dos. Donc c'est un poisson vraiment là, qui est fun à prendre pour les enfants. Et ensuite de ça, bien, toutes les activités extérieures aussi. Donc, les gens ne viennent pas juste pêcher, mais viennent faire une belle journée plein air.
Et on répète pas plus d'informations, Steve?
Oui, pour plus d'informations, écoute, c'est visiter notre site web, lespoissons.ca, ou appelez-nous au 418-325-2475 pour prendre l'information auprès de nos préposés. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir à Saint-Anne-de-la-Pérade.
Alors, Steve Mascotte, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je vous souhaite une excellente fin de saison de pêche et on vous dit à la prochaine.
Bien, parfait, à la prochaine, puis venez nous voir, ça va nous faire plaisir de guérir le sourire à Saint-Anne.
Et là-dessus, une pièce musicale.
Les joyeux péradiers vous invitent à venir oublier vos soucis. Tourbillon des pêcheurs qui s'agitent, notre gai carnaval vous convie. Dans notre souveraine, rejoignons les rangs de ses sujets et chantons autour de notre reine de l'hiver la beauté qui renaît. N'oublie pas la tournée des cabanes. Garde-toi de voler des poissons. Si tu veux profiter de la manne, avec nous viens fêter la saison. La carnaval, carnaval, c'est la joie idéale. Carnaval, on vit le mal. Et le rêve de bien égal. Et le rêve de bien égal. Allez, montez, filles et garçons, et du haut de notre vous verrez pourquoi chaque saison, tant de gens à tour.
Je vous rappelle, chers auditeurs et auditeurs, que vous écoutez en ce moment votre émission Voyage-Voyage sur les ondes de votre station par excellence, fidèle au poste, en compagnie de votre animateur André Bouchard. Pense, eh bien, j'accueille avec plaisir Julie Brodeur, qui est la fête, directrice des communications et des relations de presse pour les éditions Ulysse, que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour, Julie Brodeur.
Bonjour, André.
Julie, quand on parle, pour ceux qui sont moins familiers, là, certains internautes ou auditeurs de radio ne connaissent pas nécessairement les éditions Ulysse. Alors, c'est quoi les éditions Ulysse, quand même?
C'est c'est une maison d'édition de guides de voyage. Donc, on se spécialise dans les guides de voyage partout dans le monde, mais aussi les guides de plein air, donc de vélo, de randonnée. Donc, des petits guides de ville, des guides, des beaux albums aussi, des beaux livres pour inspirer les voyageurs.
Alors, je sais que vous êtes connu pratiquement internationalement parce que vous avez des livres de calibre international également. Alors, Julie, quelles sont les deux destinations là, que tu veux nous faire connaître à ce moment-ci principalement?
Oui, bien là, avec la venue de l'hiver, hein, on pense aux destinations soleil, à la chaleur. Donc, on a sorti deux nouveaux guides. Pour les gens qui voudraient aller se réchauffer. Donc, on a Cancun, Riviera Maya et le Yucatan, qui est un de nos guides très populaires parce que ça attire beaucoup les familles. Il y a énormément de choses à faire là-bas. Puis, il y a aussi le guide fabuleux Costa Rica. Donc, ça, c'est deux destinations hein, pour aller en Amérique latine qui sont très sécuritaires, qui ont des magnifiques plages puis qui offrent l'occasion
bon, bien.
Plein d'activités de plein air, mais aussi culturel.
On va commencer par la Cancun d'abord. Julie, alors parle-nous de Cancun. Qu'est-ce qu'on peut découvrir d'intéressant à Cancun? Ou du moins dans le livre Cancun, pour découvrir Cancun.
Dans le fond, on peut découvrir, bon, en plus de la plage, parce qu'il y a des super belles plages là-bas, il y a toute la culture maya qui est à découvrir. Donc, on peut voir des sites archéologiques qui sont très accessibles, qui sont magnifiques. Donc, la culture maya, autant avec les sites que la nourriture, il y a des très beaux sites touristiques aussi qui sont gérés par les communautés maya qui nous amènent voir la faune et la flore dans des parcs qui sont magnifiques.
Dire que ça dépasse en quelque sorte juste le niveau de la plage.
Oui, tout à fait, vraiment, oui. Il y a vraiment plus à faire. Il y a beaucoup de parcs écologiques aussi à visiter en famille. Il y a la plongée qu'on peut faire, la plongée sous-marine. Puis il y a aussi la visite des cénotes qui sont comme des espèces de cavités remplies d'eau douce qu'on peut dans lesquelles on peut faire de la plongée. C'est un peu comme des grottes. C'est magnifique. C'est très unique à cette destination-là. Il y en a beaucoup. On peut visiter aussi des villes coloniales comme Valladolid ou Mérida. C'est des villes très... très agréable, avec une belle architecture. La gastronomie est excellente aussi. Puis c'est très facile de voyager là-bas, tant en autobus, en autocar ou en voiture. Là, ça se fait très bien.
Est-ce que du côté hôtelier, par exemple, au hébergement, c'est relativement facile, et gastronomie également?
Oui, c'est très facile. Il y a beaucoup de choix. Hein. Tout le monde va y trouver son compte un peu, là, que ce soit dans des resorts ou dans des petits appartements ou des hôtels... À échelle humaine, il y a de tout là-bas. Tout le monde va y trouver son compte dans toutes les échelles de prix aussi. Des fois, ça peut être très cher, mais on peut s'en sortir aussi à coût raisonnable là, en cherchant des chemins, des endroits plus à échelle humaine ou des appartements. Donc, tout ça, c'est possible là-bas. C'est très facile. Puis au niveau de la gastronomie aussi, la nourriture est abordable. C'est très bon, c'est très frais. Puis on peut aussi se gâter dans des restaurants gastronomiques là, plus luxueux.
Alors, intéressant de ce côté mexicain. Et si on parlait maintenant du côté de Costa Rica, qui est une destination assez courue quand même. Et à quel endroit s'est situé Costa Rica?
Oui, c'est en Amérique centrale. Donc, c'est très couru. C'est un pays qui est tout en longueur, puis qui a les deux côtes. Donc, on peut profiter de la côte des Caraïbes, qui a une ambiance... justement, qui est très caribéenne, qu'on a de l'autre côté, l'océan Pacifique, c'est complètement une ambiance différente, les paysages sont différents, la population aussi, donc ça nous donne vraiment deux côtés intéressants à découvrir en voyage. Puis, c'est une destination qui est très axée sur l'écotourisme, sur le mer. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire en forêt.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Il y a le magnifique. Il y a aussi des belles plages, bien sûr. Il y a beaucoup d'activités qui se passent, comme soit des marches qui sont guidées, où on peut voir la faune et la flore. Il y a du rafting, on peut faire du vélo. Il y a vraiment une foule de choses à faire là-bas. Et puis, la température est très agréable. Il y a des volcans, donc on peut voir aussi des volcans en activité, mais que c'est pas dangereux. Donc, c'est assez particulier comme environnement. D'un endroit à l'autre, ça change beaucoup. Le paysage change. puis les gens sont très, très chaleureux, puis c'est très agréable à voyager.
Est-ce qu'on peut dire que le côté écologique, comment vous parlez, écotourisme touristique, s'est développé beaucoup du côté de Costa Rica, selon mes renseignements?
Oui, énormément. En fait, c'est un pays qui est carrément carboneutre. C'est ça, c'était un des buts du gouvernement, c'est de limiter le plus possible l'empreinte écologique au niveau touristique. Donc, on le voit, c'est vraiment... Ils ont à cœur l'environnement, c'est leur principale richesse. Donc, ils la protègent. Donc, partout dans qu'on voyage, on voit les initiatives, on voit les impacts que ça a, les choix. Donc, on construit des hébergements en fonction de diminuer le besoin en air climatisé. Donc, sont ventilés de façon naturelle. Tout est pensé pour avoir une demande amoindrie en énergie.
Alors, très intéressant, en effet. Alors, vous avez des sujets... Alors, Julie Brodeur, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Et si on veut justement avoir des renseignements additionnels, eh bien, il faut s'adresser tout simplement à ulysse.com. Et là-dessus, passons à une pièce musicale. Là-dessus, je vous rappelle, chers auditeurs et auditeurs, que vous êtes toujours à l'écoute de votre station préférée, fidèleauposte.com, pour votre émission Voyage-Voyage, en compagnie de votre animateur, André Bouchard. Et pour nous parler d'un événement un peu spécial, soit le Festival de la banquise de Portneuf, j'accueille avec plaisir le porte-parole, qui est à la fois un grand aventurier, voyageur, animateur, chroniqueur et trotteur. Alors, en l'occurrence, Alexis Nantel, qui va nous parler de ce bel événement. qui va se dérouler prochainement. Un genre d'aventurier, un grand voyageur, en l'occurrence Alexis Nantel, qui va nous parler justement de cette 5e édition et que j'ai le plaisir d'accueillir. Alors bonjour Alexis.
Bonjour André.
Alexis, quand on parle d'un tel festival, comment ça a débuté ce festival? C'est quoi?
Ben, il faut savoir que le Festival de la banquise à Portneuf, c'est issu ça d'une course, hein, une course qui fait partie du circuit québécois de canot à glace. Hein, la course de canot à glace, entre autres du Carnaval de Québec, qui est bien connue, mais il y en a 6 comme ça à travers la province et Portneuf en est une. Ce qui fait qu'on appelle ça un festival maintenant, c'est qu'autour de cette course-là, ben, il y a plusieurs activités qui se sont développées en marge au fil du temps. Et c'est pourquoi on en a fait un festival. Donc, c'est vraiment un grand week-end de fête où on a beaucoup d'activités qui sont offertes et tout ça gratuitement.
Et parlez-nous justement de... C'est que l'élément principal est le canotage. Alors, pourquoi le canotage?
Ben, c'est une course de canots à glace. Donc, comme on peut les connaître, mais moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il faut se réapproprier ce sport-là, hein, qui est un sport de nos ancêtres, qui était d'abord, il faut le rappeler, dans l'histoire, un moyen de transport, notamment pour les insulaires, hein, pour regagner la rive. On allait même parfois transporter les enfants pour aller à l'école, mais c'était surtout pour transporter des denrées à partir du port de Québec aussi pour lier la rive sud. Ça s'est fait souvent pour le transport de marchandises avant l'arrivée des bateaux à coque d'acier. Mais aujourd'hui, donc, c'est devenu un sport qui s'est popularisé, qui a innové aussi dans le temps parce que, bon, ce ne sont plus des canots de bois, mais bien des canots en fibre de verre maintenant qui sont très légers puis qui sont quand même très résistants pour les glaces. Alors, on vient voir ça, c'est un grand balai sur la glace. Moi, je dis toujours, parce que c'est un départ simultané, il y a plusieurs catégories, c'est très coloré. Alors là, pour les amateurs de photographie, c'est un endroit fantastique pour le faire parce qu'en plus, tu sais, André, ça se passe à Portneuf, à la marina de Portneuf, et on retrouve sur place le plus long quai en eau douce, en Amérique du Nord et possiblement dans le monde. On parle d'un quai de tout près d'un kilomètre, ce qui nous permet de suivre à partir de la banquise la course jusque presque de l'autre côté sur la rive sud et on les voit revenir donc pour le fil d'arrivée. Les plus rapides vont le faire en 35 à 40 minutes. Mais donc, il y a plusieurs activités et ça commence ça, le vendredi 1er mars.
Justement, donne-nous un aperçu des activités pour la fin de semaine à l'occasion.
Oui, absolument. Je dirais que le gros événement du vendredi soir, bon, il y a eu un 5 à 7 pour le lancement, mais c'est surtout à 19h30 la veillée de danse. C'est de la danse traditionnelle. Moi, je suis pas un grand danseur, mais je me laisse toujours aller un petit peu ce soir-là. Alors, ça vaut la peine de venir se fêter avec nous. Le 2 mars, donc le lendemain, c'est la course à 12h30, mais les activités débutent à 10h30 le matin. On y retrouve plusieurs choses. D'abord, une cantine avec des aliments 100% locaux. On a une bière de microbrasserie qui est brassée localement par les Grands Bois. Il y a une boutique de la banquise avec plusieurs articles du festival et des trucs d'artisanat. La course va être retransmise aussi en direct sur écran là, pour les plus frileux qui veulent rester à l'intérieur de l'igloo de la tente chauffée. Mais sinon, c'est vraiment sur le quai que ça se passe avec les flûtes de carnaval qui résonnent, la musique. C'est toujours une journée qui est très spectaculaire. Et les enfants, ben, sont pas en reste parce qu'on peut apprendre à faire de la sculpture de glace. Il y a des jeux géants. On peut faire de l'initiation au vélo d'hiver, là, au fat bike. Il y a de l'interprétation aussi de l'histoire du canot, des graffitis sur neige. Faut vraiment faire une destination lors de ce week-end-là. C'est pour ça que j'invite les gens d'un peu partout au Québec à venir sur place, réserver. Il y a de l'hébergement autour de Portneuf. Et si vous êtes parmi les plus braves et que vous voulez l'essayer, il reste quelques places pour s'initier au canot à glace avec les professionnels. Et ça se passe le dimanche 3 mars pour clôturer le festival.
Est-ce qu'on peut dire que n'importe qui peut y participer?
Oui, à peu près n'importe qui peut y participer, qui a quand même une certaine forme de base, là, je dirais, parce que ça se fait quand même très lentement, puis on prend le temps. Évidemment, on voudrait pas perdre personne dans l'eau. Je l'ai fait moi-même à 2 reprises. C'est vraiment très, très sécuritaire. On y va très tranquillement, on prend le temps de rembarquer dans le canot, on pratique aussi la rame quand il y a des portions d'eau qui sont accessibles, parce qu'on veut pas aller non plus vraiment dans le canal du fleuve où le débit est quand même très, très fort. Donc souvent, quand la saison le permet, ben, on a quand même des fois des petits bassins d'eau qui se créent sur la banquise. Alors, on se sert de ceux-ci.
ça va convaincre nos auditeurs et internautes à participer justement à ce bel événement vraiment spécial. Qu'est-ce que tu dirais, Alexis?
Bien, ce n'est que plaisir pendant 3 jours. Moi, j'y vais avec ma famille, j'ai des amis qui viennent, puis à chaque année, on en convainc d'autres de se rassembler, puis d'en faire une fête vraiment de famille et d'amis, puis de profiter de l'ensemble des activités sur place. Tout est au même endroit, on n'a pas besoin de se déplacer une fois que la voiture est stationnée. On est là à l'extérieur de Hans, c'est un festival qui est 100% plein air, ce que j'aime beaucoup, qui est gratuit en plus, il y en a de moins en moins. Mm-hmm. Alors venez en profiter, je vais être là, venez me saluer, on vous attend.
Et pour plus d'informations, qu'est-ce qu'on doit faire?
Ben, tout va se retrouver sur le site web du festival, là, qui est festivaldelabanquise.ca. Vous allez avoir la programmation qui est là et l'ensemble des partenaires.
Alors, Alexis Nantel, porte-parole de cette 5e édition du Festival de la Banquise, et également conférencier, journaliste, reporter, etc., et aventurier. Merci de cette entrevue, puis on vous souhaite un excellent succès à l'occasion de cette 5e édition du Festival de la Banquise. À la prochaine.
Merci, à une prochaine.
Et là-dessus, je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que vous écoutez en ce moment votre émission Voyage Voyage sur les ondes de votre station préférée, fidèleauposte.com, en compagnie de votre animateur, André Bouchard. Et maintenant, nous nous dirigeons du côté des pourvoiries. On sait que c'est considéré comme les hôteliers du Québec. Et pour nous parler justement du nouveau guide également, J'accueille avec plaisir Josiane Lavallée, qui est en fait la directrice des communications et du marketing, et que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour, Josiane.
Bonjour, monsieur.
Josiane, quand on parle d'abord pour nos auditeurs et internautes qui sont moins familiers, là, c'est quoi les pourvoiries du Québec ou la Fédération également?
En fait, une pourvoirie, comme vous l'avez si bien dit, c'est des aubergistes de la forêt. Donc, c'est vraiment des entrepreneurs, des propriétaires qui s'accueillent sur leur territoire, que ce soit pour pratiquer la chasse, la pêche ou encore tout simplement en mode villégiature, donc pour profiter du plein air. On a un très grand réseau d'hébergement, plus de 4395 cités d'hébergement, que ce soit des chalets, des auberges, de l'hébergement d'expérience. Donc, il y en a vraiment pour tous les coups.
Est-ce qu'on peut dire que ça a pris de l'expansion de plus en plus? Parce qu'on entend parler, me semble, un peu plus qu'antérieurement.
Bien, c'est vrai que depuis la pandémie, hein, les gens se sont beaucoup tournés vers le plein air, vers le fait de profiter des activités à l'extérieur, que ce soit en famille ou entre amis. Donc, je pense que pour ça, on entend plus parler effectivement des pourvoiries parce que ce sont des lieux tout indiqués là, pour se réunir, passer une belle fin de semaine ou encore des vacances là, au grand-père.
Est-ce qu'on doit considérer maintenant que c'est en toute saison?
Oui, absolument, parce qu'on a plusieurs pourvoiries qui sont ouvertes à l'année. Donc, profiter de la nature, ça ne se fait pas juste l'été. On peut pêcher là, dans certaines pourvoiries jusqu'à la fin octobre. Il y en a même qui vont poursuivre l'hiver avec la pêche blanche ou encore l'accueil de motoneigistes, le fait de pouvoir faire du siphon, de la glissade, de la raquette en pourvoirie aussi. Donc, c'est vraiment un superbe réseau là, à découvrir en quatre saisons.
Et voilà que vous avez dévoilé récemment le nouveau guide 2024. Alors, de quoi s'agit-il?
Le guide de la pourvoirie, en fait, c'est une publication qu'on fait chaque année, qui est le répertoire complet de toutes les pourvoiries du Québec, qui sont membres de la Fédération des pourvoiries du Québec. Donc, vous allez découvrir plus de 330 destinations. Elles sont regroupées par région touristique. Donc, vous avez à chaque début de section là, une carte de la région avec une liste des pourvoiries par secteur. Et vous allez découvrir là, qu'est-ce qu'elles offrent en termes de services, d'activités, les hébergements qu'il y a sur place également, les espèces qu'on peut chasser, pêcher. C'est vraiment en quelque sorte la Bible de la pourvoirie là, et
mm-hmm. au Québec. C'est très bien fait d'ailleurs, de beaucoup d'illustrations, je crois, et de documents ou de documentation.
Exactement. Puis on présente même cette année le cahier spécial Histoire de clients fidèles. Donc on sait que quand on goûte aux produits pourvoirie, on a définitivement envie d'y retourner. Donc ce sont 7 clients qui nous partagent leurs meilleurs souvenirs en pourvoirie. On est pas mal certain que ça va éveiller des souvenirs chez les lecteurs puis permettre d'échanger de belles histoires sur les souvenirs en pourvoirie.
Vous avez mentionné les différentes régions du Québec. Est-ce qu'on peut dire que la plupart des régions au Québec, nous avons des pourvoiries?
Tout à fait. Il y en a vraiment partout sur le territoire du Québec. Donc, on peut se promener, là, qu'on soit à la recherche d'un séjour à proximité de la maison ou qu'on ait envie de dépaysement, il y en a pour tous les coups.
J'avais à convaincre nos auditeurs là, pour les inviter à justement aller dans les pourvoiries. Qu'est-ce que tu dirais, Josiane?
Bien, je leur dirais, en fait, que peu importe le type de séjour, peu importe les activités qu'ils souhaitent faire, il y a une pourvoirie près de chez eux qui va répondre à leurs besoins. Puis, c'est faux de penser que les pourvoiries, c'est des shacks dans le fond du bois, sans trop de services, que ça prend un gros pick-up pour se rendre. C'est pas du tout le cas, là. Il y en a, si c'est ce que vous cherchez, mais la majorité sont facilement accessibles. Il y en a plusieurs qui sont à proximité des grands centres urbains, donc on peut tout à fait se rendre en voiture, que ce soit pas trop long pour les enfants, les petits-enfants, puis que chacun y trouve son compte avec une panoplie d'activités. On peut y aller, même si on n'est pas fervent de chasse et de pêche, qu'on veut juste profiter d'un chalet tranquille, d'un bord de l'eau, écouter le huard le matin, faire des petites activités là, l'après-midi en forêt, c'est tout à fait possible. On n'est pas obligé d'être un pêcheur aguerri là, pour se réserver un séjour en pourvoirie.
Alors, si on veut se procurer justement ce beau document, et pour plus d'informations, qu'est-ce qu'on doit faire?
Le guide de la pourvoirie est disponible sur notre boutique en ligne, donc au guide-de-la-pourvoirie.com. Sinon, vous l'avez probablement vu passer là, dans plusieurs des détaillants dans les dernières semaines, donc que ce soit en pharmacie, dépanneur, les magasins de chasse et pêche, Canadian Tire, entre autres, ont également le guide. Donc, vous pouvez vous l'acheter là, un peu partout près de vous.
Alors, merci beaucoup pour tous ces renseignements, Josiane Lavallée, qui est la directrice du marketing et des communications à la Fédération des pourvoiries du Québec. Merci beaucoup. À la prochaine. Et justement, pour compléter cette entrevue, écoutons une pièce de musique composée par un de mes bons amis français à l'harmonica concernant justement les voyages en train. Alors, ça donne l'occasion, on sait que dans les pourvoiries, on s'y rend assez souvent par train. Écoutons. C'est une pièce musicale interprétée par notre ami de la France, Pierre Daquin, qui, on le sait, compose des belles pièces musicales à harmonica et dans des circonstances concernant le train. Alors, c'est de bonnes occasions pour les pourvoiries, parce qu'on sait qu'en pourvoirie, il n'est pas toujours facile de s'y rendre. Alors, par la suite, nous poursuivons cette entrevue avec Josiane Lavallée. Et nous poursuivons cette émission, justement, en compagnie de Josiane Lavallée, qui est la directrice du marketing et des communications de la Fédération des pourvoiries du Québec. Alors, Josiane, vous avez un projet spécial qui devrait intéresser nos auditeurs et internautes. De quoi s'agit-il?
Tout à fait. En fait, la Fédération des pourvoiries du Québec vient tout juste de lancer le Fonds pour la protection des milieux naturels en pourvoirie. Ça fait plusieurs années, en fait, que la protection de la faune fait partie de nos valeurs profondes à la Fédération des fourvoiries du Québec. Et là, on fait une action concrète en ce sens en lançant le tout nouveau fonds.
Alors, c'est quoi ce fonds? Va servir à quoi exactement?
En fait, il y a deux principaux objectifs là, au fond. Le premier, c'est vraiment de créer des aménagements durables par territoire de pourvoirie. Et le deuxième, c'est de protéger, en fait, la faune et assurer sa pérennité.
Mm-hmm.
Parce qu'on le sait, hein, on va en pourvoirie, on profite du lac, de la montagne, la faune est abondante, on entend le chant du huard, les cris des loups, des fois en soirée, on trouve ça magnifique que ça regorge d'abondance comme ça. Mais ce dont on est parfois moins témoin, c'est l'importance, en fait, et à quel point c'est précaire. On pense que c'est acquis, puis que ça fait partie, c'est de l'environnement, mm-hmm. puis c'est normal. Mais on le voit de plus en plus aussi de nos jours avec les changements climatiques, les feux de forêt qu'on a eu ce printemps. Donc, c'est vraiment important de préserver ces milieux naturels-là. Si on veut en assurer la pérennité pour que les générations futures puissent en profiter, puis que ça continue d'exister, puis que ça soit pas... des forêts dévastées qu'on a devant nous, là, devant le lac.
Mm-hmm.
On veut pas que ça ait été bûché ou quoi que ce soit. C'est important, mais on veut que ce soit fait de manière durable pour pouvoir, dans le fond, continuer d'en profiter année après année.
Et qu'est-ce qui vous a amené justement à mettre sur pied un tel projet?
En fait, l'objectif, c'est vraiment de doter nos ressources des fonds nécessaires pour passer à l'action. Souvent, on est tributaire des projets gouvernementaux, des différentes instances ou subventions, mais c'est des choses qui sont longues et qui prennent du temps pour lesquelles on doit déposer des projets. Puis des fois, ça aboutit pas comme on veut. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être autonome, d'être 100% indépendant, de pas juste en parler, mais de le faire aussi, que les bottines suivent les babines. Comme
mmh, oui.
Donc, vraiment...
Alors, c'est intéressant comme projet. Alors, c'est un très beau projet, en effet. Et puis, si on va plus de renseignements concernant ce projet-là, à qui il faut s'adresser?
On va sur le pourvoirie.com/fonds. Il y a deux façons de cotiser au fonds. Donc, que ce soit par la boutique en ligne, en faisant un don directement, ou encore en réservant un séjour auprès de l'une des pourvoiries participantes. Donc, on a à ce jour une vingtaine de pourvoiries mm-hmm. qui sont engagées dans l'aménagement durable des forêts et la protection de la faune. Donc, vous allez pouvoir les trouver là aussi sur le site web. Et en réservant un séjour, ces pourvoiries-là vont vous proposer de faire un don de 2 $ par personne par séjour qui vont aller directement au fonds pour la protection là, des milieux naturels en pourvoirie.
Est-ce que le numéro de téléphone également, Josiane?
Oui, tout à fait. Ça va être tout en ligne. Donc, on vous invite vraiment à vous rendre sur Internet au pourvoirie.com/.
On aura tous les renseignements voulus. Alors, c'est un projet vraiment humanitaire intéressant pour les gens qui veulent protéger justement nos biens naturels.
Exactement, puis s'assurer qu'on puisse le transmettre de génération en génération puis qu'on puisse continuer de profiter d'une belle nature épanouie.
Alors, merci beaucoup, Josiane Lavallée, directrice du marketing et des communications de la Fédération des pourvoiries du Québec. Et on vous dit à la prochaine.
Thank you.
André Brousseau, qui est la directrice générale, qui va nous donner de quoi il s'agit et que j'ai le plaisir de saluer. Bonjour André Brousseau.
Bonjour Monsieur Bouchard. Ça me fait plaisir de vous parler de notre nouvelle galerie virtuelle qu'on lance aujourd'hui.
Alors, c'est quoi cette galerie virtuelle dans un musée? C'est assez spécial quand même.
Oui, c'est spécial parce que pour nous, de un, c'est une première. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on avait fait pour le 140e anniversaire du musée Pierre Boucher, qui est le musée fondé en 1882. Donc, en 2022, c'était le 140e anniversaire. On a présenté une exposition en salle et on était encore dans la pandémie. Donc, les gens n'ont pas pu apprécier, venir voir parce qu'il y avait plein de restrictions. C'était plus désagréable, c'était plus difficile. Alors, ce qu'on s'est dit, cette exposition-là est tellement belle, importante. Les pièces sont tellement uniques. Il raconte l'histoire des donateurs, l'histoire des gens. Donc, on doit absolument trouver une idée comment qu'elle survive à après la fin de son exposition. Donc, on a dit, on va faire un projet d'exposition virtuelle. On a fait une sélection parmi les 500 œuvres qui étaient exposées, œuvres et objets patrimoniaux qui étaient exposés dans la salle, et on en a sélectionné près de 200. Qu'on a documenté, photographié, et on a fait des recherches pendant des mois, planifié comment on voulait faire ça. Alors, on s'est associé avec une compagnie qui s'appelle Zanicom, qui nous a aidé vraiment à monter cette exposition-là. Mais ça, c'était fait grâce, faut le dire, parce que le musée Pierre Boucher, on n'est pas un musée très, très fortuné. Alors, c'est une subvention qu'on a eue de Patrimoine Canada, l'aide au musée. Donc, c'est avec ça qu'on a pu faire cette exposition-là.
Expliquez-nous de quoi il s'agit, ce processus.
Alors, on a les objets qui ont été sélectionnés, comme je vous dis, ça a été des objets qui étaient vraiment significatifs, soit en fonction de leur histoire, soit en fonction des gens qui étaient les donateurs de ces objets. Parce qu'il faut dire que Trois-Rivières, on raconte dans notre collection, ça raconte beaucoup l'histoire de la Mauricie. C'est sûr qu'on a ça s'éteint aussi, mais Trois-Rivières, notre collection au Musée Pierre Boucher, c'est vraiment plus la Grande Mauricie. Donc, nous, on voulait faire ressortir ces liens-là parce que l'exposition s'appelait 140 liens parfaits. C'était pour ça le titre. Donc, on a mis l'accent sur ce côté-là et on voulait aussi, par ce moyen-là d'exposition virtuelle, faire prendre conscience aux gens que conserver des objets, c'est important. Et on voulait aussi trouver une façon qu'ils puissent les consulter d'une façon ludique, que ça soit agréable, puis tu consultes ça chez toi. Donc, tu peux regarder ça petit bout par petit bout, selon tes intérêts, selon ce que tu cherches. Si tu cherches à consulter dans la collection, c'est quoi qu'il y a dans les montres, c'est quoi qu'il y a au niveau d'une ville comme Yamachiche. Alors, il y a différents onglets qui nous permettent d'aller faire des recherches plus précisément selon nos intérêts. Et c'est ça qu'on voulait, parce que c'est plus facile pour les gens. Puis en même temps, ben, c'est partout dans le monde, c'est une exposition qui est bilingue, donc en anglais qu'en français, et qui va perdurer. On va pouvoir aussi l'enrichir au fil des années. On va continuer à ajouter des objets. Alors, cette exposition-là va encore s'améliorer, prendre encore de l'envergure, toujours pour le plaisir des gens et de notre public.
Est-ce qu'on peut dire que justement, ça sort bien, en quelque sorte, le 140e anniversaire que vous avez fêté il y a quelque temps?
Oui, finalement, c'est comme l'aboutissement de notre 140e anniversaire qui n'avait pas été fêté à notre goût. Alors, dans le fond, ça, c'est vraiment pour mettre la cerise sur le sundae de notre 140e anniversaire, comme je dis, qui avait été perturbé durant la pandémie. Mais c'est vraiment, puis même les écoles, tu sais, le public qui va pouvoir avoir accès à ça, c'est tout le monde va trouver les universités, les cégeps, le secondaire, même le primaire, c'est vraiment raconté d'une belle façon. Et aussi, ce qu'il faut dire, il y a des objets qui sont présentés en 360 degrés, donc on peut plus les apprécier aussi. Et il y a une belle description qui accompagne chacun des objets, vraiment une description précise qui rapporte tous les faits qu'on connaît jusqu'à maintenant en rapport à chacun des objets. Et on a aussi une description narrative qui accompagne certains objets. Ce n'est pas les mêmes textes qui sont décrits sur le site, mais c'est plus léger, c'est plus ludique. Et pour les gens qui aiment moins lire, je pense que ça peut être une bonne façon d'apprécier l'histoire de l'art, puis l'histoire en général.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un beau voyage muséologique, en quelque sorte, vraiment spécial, hors de l'ordinaire?
Bien, je pense que vous avez le bon mot, M. Bouchard. C'est un voyage muséologique à travers une foule d'objets qui sont significatifs, qui ont des liens entre eux et que c'est quasiment un must de les connaître pour les gens de la Mauricie parce que la plupart ont été donnés par des gens qui sont ici. Donc, on se reconnaît dans cette exposition-là.
C'est intéressant. Vous avez une invitation à faire à nos internautes et auditeurs de radio, justement, parce qu'on a beaucoup d'internautes également, pour les convaincre, justement, à visiter ce beau site magnifique. Qu'est-ce que vous diriez?
Bien, moi, je dis, si vous avez le goût de l'insolite, le goût des belles choses, des choses qui sont particulières, les choses qui sont pleines d'histoire, de patrimoine, des belles choses artistiques, bien, je pense que c'est le meilleur site. Et vous allez voir, vous en avez pour des heures, sinon des jours, si vous consultez ce site-là, tellement il y a de la documentation, des choses intéressantes à voir sur le site.
Alors, on peut le...
Notre site Internet, vous allez...
Le site Internet est quoi, maintenant?
Le site Internet, c'est un nouveau site qu'on vient de lancer il y a quelques jours. Alors, si vous allez sur le site Internet, dans l'onglet principal, vous allez voir en haut, justement, l'adresse, le lien pour aller visiter l'exposition virtuelle. Alors, en un clic, vous vous rendez sur l'exposition virtuelle, puis vous avez toute notre programmation qui est dans notre nouveau site Internet. Alors, j'invite tous les gens à venir nous visiter au musée ou en mode virtuel.
Alors, le message est lancé, et merci beaucoup, André Brousseau, qui fait intérêt, et bon succès dans ce nouveau projet informatique, si l'on peut dire, web. Merci, à la prochaine.
Merci, M. Bouchard, c'est un plaisir.
Et là-dessus, écoutons une pièce musicale. Qui termine, chers auditrices et auditeurs, cette émission Voyage Voyage sur les ondes de votre station préférée fidèleauposte.com. J'espère que vous avez apprécié. Évidemment, vous avez des commentaires ou suggestions. Il me fera plaisir de les recevoir au courriel suivant andrebouchard84@commercialgmail.com. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine remplie de belles découvertes ici et là. Et là-dessus, ici André Bouchard qui vous dit à la prochaine.